You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Les grands titres de ce samedi 8 septembre. Le premier ministre australien Scott Morrison entend se débarrasser de la National Energy Guarantee et par le fait même de se défaire des objectifs d'émission de l'accord de Paris. En France, le président Emmanuel Macron recevait la chancelière allemande Angela Merkel pour parler d'immigration. Et aux États-Unis, le président Donald Trump demande au procureur général Jeff Sessions de trouver la personne responsable de l'éditorial le critiquant dans le New York Times. Commençons ce journal en Australie. Le premier ministre Scott Morrison va se débarrasser de la National Energy Guarantee, la NEG, lorsque le Parlement reprendra la semaine prochaine. Morrison a dit à The Weekend Australian que la NEG n'irait pas plus loin et qu'il se déférait ainsi des objectifs d'émission de l'accord de Paris. La ministre des Affaires étrangères, Mary Spain, avait pourtant dit il y a quelques jours que le gouvernement allait respecter l'accord de Paris. Le nouveau premier ministre veut aussi introduire de nouvelles lois sur la liberté de religion. Ses actions semblent montrer que les politiques de Morrison ne seront plus conservatrices que celles de son prédécesseur, Malcolm Turnbull. Le ministre des Vétérans, Darren Chester, affirme que d'établir des quotas n'est pas la solution pour combattre le déséquilibre homme-femme dans la coalition. Plusieurs libérales, dont Mary Spain, Susan Lee et Julie Bishop, ont admis qu'il n'y avait pas assez de femmes au sein du parti. Les libéraux se sont toujours opposés au quota et Chester va dans ce sens, se disant à ABC qu'il y a d'autres façons d'améliorer la situation.
I'm not a fan of quotas directly, but I do think we have to be more actively seeking to recruit women to seats which are safer seats, so they're not always in marginal seats to begin with, but also into senator type roles.
Seulement 18 % des députés libérales sont des femmes, comparativement à 48 % chez les travaillistes qui ont instauré des quotas en 1994. La travailliste Linda Burney a dit à ABC que les autres partis bénéficieraient de faire de même.
There are just not enough women in the parliament, and something deliberate like quotas or affirmative action is the answer, in my view, to bring some equity about.
La travailliste Linda Burney. Les électeurs se rendent aux urnes aujourd'hui pour l'élection partielle dans Wagga Wagga, en Nouvelle-Galles du Sud. La première ministre de l'État, Gladys Berejiklian, a dit qu'il serait difficile pour son parti de garder le siège, qui est pourtant leur depuis 60 ans. Elle croit que les disputes du Parti libéral au fédéral pourraient déteindre sur le parti de l'État. Il faut aussi dire que l'élection partielle a été déclenchée après que le député libéral Darrell Maguire ait dû démissionner suite à un scandale de corruption. Passons maintenant à l'international. En France, le président Emmanuel Macron recevait la chancelière allemande Angela Merkel à Marseille. Déjà en campagne pour les élections européennes, Emmanuel Macron voulait consolider son arc progressiste face aux nationalistes anti-migrants qui progressent en Europe. Anastasia Becchio nous en dit plus.
Si Emmanuel Macron a choisi le palais du Pharo avec vue sur la Méditerranée pour accueillir la chancelière allemande, ça n'est sans doute pas par hasard.
Les sujets migratoires, cette ville de Marseille les connaît ô combien, comme toute la Méditerranée qui est au cœur aujourd'hui de notre politique européenne et dont nous voulons faire une chance et pas une crainte ou une route de nécessité.
L'Europe est très divisée sur les questions migratoires. À moins de 9 mois des élections européennes, 2 clans se dessinent. Celui d'une politique inflexible et fermée emmenée par le Hongrois Orban et celui progressiste qui plaide pour plus de solidarité qu'Emmanuel Macron entend incarner. L'Allemagne et la France ont une approche commune des problèmes. Sur cette question, il faut que l'Europe fasse ses preuves, a pour sa part déclaré Angela Merkel à son arrivée au palais du Pharo. La chancelière allemande, elle-même sous pression de son ministre de l'Intérieur sur les questions migratoires, affiche la confiance. Nous allons pouvoir progresser en faveur d'une Europe indépendante qui est capable de résoudre ses problèmes, annonce la chancelière. En se réunissant ce soir à Marseille pour un entretien en tête-à-tête suivi d'une réunion élargie aux délégations et d'un dîner, les dirigeants français et allemands entendent d'envoyer un message fort à quelques semaines de plusieurs échéances importantes. Un sommet informel à Salzbourg suivi d'un Conseil européen avec surtout en ligne de mire les européennes de mai prochain.
Anastasia Becchio de RFI. Toujours en France, François Fillon, qui on se rappelle avait été mis en examen l'an passé, était de nouveau entendu par les juges d'instruction vendredi. Ces derniers sont bien sûr chargés de l'enquête sur les emplois possiblement fictifs au Parlement, de son épouse Pénélope et de leurs enfants. Franck Alexandre a les détails.
Cette nouvelle audition de François Fillon au lendemain de celle de son épouse Pénélope est un processus classique de la procédure pénale. Un dernier interrogatoire après la remise du rapport de synthèse des enquêteurs et avant la clôture prochaine de l'information judiciaire. Au cœur du dossier, les soupçons d'emploi fictif de sa famille, femme et enfant, comme assistant parlementaire. Les investigations portent aussi sur les salaires touchés par Pénélope Fillon pour un emploi à la Revue des Deux Mondes. Ce n'est pas tout. Aux soupçons d'emploi fictif se sont ajoutés ceux de trafic d'influence quand Robert Bourgi, figure des réseaux de la France-Afrique, a révélé avoir offert pendant la campagne deux costumes d'une valeur de 13 000 euros à l'ancien Premier ministre. Jusqu'à présent, devant les juges, François Fillon a toujours défendu la réalité des emplois d'assistant parlementaire de sa femme à l'Assemblée nationale. À l'avenir, il lui faudra peut-être défendre sa position devant un tribunal correctionnel, mais dans l'attente de cette éventuelle échéance, François Fillon, vite heureux caché, dit ses anciens soutiens politiques, il a depuis rebondi dans les affaires au sein d'une société de gestion d'actifs.
Franck Alexandre de RFI. Aux États-Unis, l'ex-conseiller de Donald Trump, qui a contribué à lancer l'enquête sur une possible collusion avec la Russie, vient d'être condamné à 14 jours de prison. George Papadopoulos a plaidé coupable d'avoir menti aux enquêteurs sur les possibles liens entre la Russie et la campagne électorale de Trump de 2016. L'homme était en contact avec un universitaire maltais qui lui aurait dit que la Russie avait accès aux emails d'Hillary Clinton. Il aurait ensuite dit à la campagne de Trump qu'il pouvait organiser une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Papadopoulos devra s'y passer 12 mois en liberté surveillée, faire 200 heures de travaux communautaires et payer une amende de 9 500 $ américains. Toujours aux États-Unis, le président Donald Trump a demandé au procureur général Jeff Sessions de trouver la personne responsable de l'éditorial le critiquant dans le New York Times. Il s'agirait d'un membre de son administration. Le président insiste que l'identité de la personne doit être révélée puisqu'il s'agirait d'une affaire de sécurité nationale. Il considère également poursuivre le New York Times. La Russie et l'Iran ont rejeté les demandes de la Turquie pour un cessez-le-feu à Idlib, en Syrie. Le gouvernement syrien, dont la Russie et l'Iran sont des alliés, veut lancer une offensive pour libérer la ville des rebelles. Autour du monde, le rejet de ce cessez-le-feu inquiète puisqu'une crise humanitaire est imminente. L'ambassadrice anglaise aux Nations Unies, Karen Pierce, a dit qu'une offensive aurait des conséquences désastreuses.
We should be crystal clear about this. There are more babies in Idlib than there are terrorists. And I think that should give those engaging in military action pause for thought.
L'ambassadrice anglaise aux Nations Unies, Karen Pierce. Au Japon, les opérations de sauvetage se poursuivent 2 jours après le séisme qui a frappé l'île d'Hokkaido. Le dernier bilan fait état de 18 morts et d'une vingtaine de disparus. Au Japon, Frédéric Charles.
La terre continue de trembler dans la région rurale d'Atsumi. Le séisme a coupé en deux plusieurs montagnes, causé des glissements de terrain qui ont rasé une forêt entière et englouti des maisons. Aujourd'hui, 25 000 militaires tentent de sauver des vies, si cela est encore possible. La moitié de l'île d'Hokkaido, proche de la Sibérie, est toujours sans électricité. La compagnie Hokkaido Electric a dû arrêter d'urgence toutes ses centrales thermiques au moment de la secousse, privant la seule centrale nucléaire de l'île, celle de Tomari, d'alimentation électrique extérieure. Pour continuer à refroidir ses 3 réacteurs à l'arrêt depuis l'accident de Fukushima, la centrale a activé des groupes électrogènes. Selon des experts, la centrale de Tomari serait construite sur une faille sismique active.
Frédéric Charles pour RFI. Et un mot de sport d'AFL pour terminer le journal. Melbourne a remporté son premier match en éliminatoire depuis 12 ans. C'était par 29 points d'écart sur Geelong. L'entraîneur Simon Goodwin était bien fier de son équipe.
I thought our boys handled the moment incredibly well. Obviously a huge crowd, first final. But our players were just adamant that they were going to put their brand on show. And I thought they certainly achieved that.
L'entraîneur Simon Goodwin. Et jetons un coup d'œil rapide à la météo avant de passer à l'actualité du Pacifique. À Perth aujourd'hui, un maximum de 20 degrés. Adélaïde, 18. Melbourne, 17. Hobart, 16. Canberra, 14. Wollongong, 16. Sydney et Newcastle, 17 degrés. Brisbane, 25. Cairns, 30. Et à Darwin, 33 degrés. Un rappel des grands titres de ce samedi 8 septembre. Le premier ministre australien Scott Morrison entend se débarrasser de la National Energy Guarantee. En France, le président Emmanuel Macron recevait la chancelière allemande Angela Merkel pour parler d'immigration. Et aux États-Unis, le président Donald Trump demande au procureur général de trouver la personne responsable de l'éditorial le critiquant dans New York Times.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.